Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30, Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 11 août, Paris s'enflamme déjà pour Lionel Messi. Moins de 24 heures après son arrivée en France, le sextuple Ballon d'Or vient d'être présenté à la presse et à une foule de supporters au Parc des Princes. Nous serons sur place dans un instant. L'allocution surprise d'Emmanuel Macron qui sonne comme un rappel à l'ordre.
La crise sanitaire n'est pas derrière nous.
Le chef de l'État préside actuellement.
Et j'ai eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, nous allons vivre pour encore plusieurs mois, nous le savons, avec ce virus.
Voilà le chef de l'État qui préside actuellement un conseil de défense face à la flambée de l'épidémie dans les Antilles. L'exécutif doit également rétablir l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française. Les incendies se multiplient sur les bords de la Méditerranée désormais. En Algérie, 42 personnes ont perdu la vie dans le nord du pays. Pendant ce temps-là, l'île d'Eubé en Grèce est toujours en flammes. Nous serons avec les pompiers français mobilisés sur place. L'invité de RTL Midi sera le lieutenant-colonel des pompiers des Bouches-du-Rhône, Nicolas Faure. Il est envoyé sur place. Et puis les fabricants de cigarettes frappés désormais au portefeuille pour financer le ramassage des mégots. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour à tous. Bonjour.
Enfin, du soleil pour tout le monde, hein, y compris dans le nord.
Exactement, y compris dans le nord. Hein, effectivement, cet après-midi, le soleil finira par s'imposer enfin partout, y compris au nord de la Loire, près de la Manche, de l'Île-de-France jusqu'aux frontières du nord-est. Le soleil dominera largement. Plus d'averses cet après-midi, on peut ranger le parapluie. Un petit peu de vent d'automne sur la région toulousaine. Et puis les températures qui vont continuer à grimper. 21 à 24 degrés, pas moins, cette fois-ci près de la Manche. 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions de la moitié nord et 30 à 36 degrés dans la moitié sud, 37 même à Nîmes.
Merci Louis Baudin, on vous retrouvera juste avant 13h. La question du jour, l'arrivée de Lionel Messi vous donne-t-elle plus envie de regarder la Ligue 1 cette saison? Et bien le résultat est plutôt surprenant, c'est oui à seulement 14%, non à 81%. Pourquoi est-ce que ça ne vous donne pas envie de regarder plus la prochaine saison de Ligue 1? L'arrivée de Lionel Messi, vous pourrez nous l'expliquer tout à l'heure. On attend vos appels au 3210 pour les auditeurs ont la parole, ce sera à partir de 13h. Vos chroniques du jour, présidentielle, le jour où j'ai dit oui, les confessions de Christine Boutin. Après 13h, après la crise, quand les épidémies font progresser la science. Et puis ensuite, les auditeurs ont la parole. Ce sera jusqu'à 13h30. Bienvenue sur RTL.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
Comme un rayon de soleil sur la Ligue 1, en ce mois d'août, le PSG vient de présenter Lionel Messi au Parc des Princes. Des centaines de supporters se massent depuis ce matin devant les grilles pour tenter d'apercevoir leur nouvelle idole, Sébastien Rouxel. Lionel Messi qui devrait sortir dans les prochaines minutes face à une foule d'ultra du PSG en délire.
Il est même sorti devant les supporters il y a quelques minutes. Une gigantesque ovation pour accueillir la superstar argentine juste devant le Parc des Princes. Des feux d'artifice même. Le sexe ballon d'or salue, sourit et signe quelques autographes avant de partir. Géré Tosange.
C'est une sensation indescriptible. Franchement, voir le meilleur joueur du monde à peine 3-4 mètres de moi. J'ai hurlé et au moment où j'ai hurlé, il a regardé vers nous. Franchement, ça fait quelque chose.
Face à la Pulga, des milliers d'ultras sont serrés les uns contre les autres. Certains allument des fumigènes rouges et blancs, d'autres agitent de gigantesques drapeaux aux couleurs du PSG. Mais hier, soutenant le club depuis 30 ans, il n'a jamais vu cela.
C'est exceptionnel, on n'a jamais vu un truc pareil. On a vu ça dans des stades, on a vu des ambiances comme ça, mais cela, jamais.
Voilà, pardonnez-nous pour ces conditions techniques un petit
après
peu délicates.
Après l'avoir vu pour John.
Merci Sébastien Rouxel qui était devant le Parc des Princes pour RTL. On est moins d'une semaine désormais après ces adieux déchirants avec le FC Barcelone. Nouvelle conférence de presse pour Lionel Messi. Vous l'avez suivi pour RTL, Eric Silvestro, avec les tout premiers mots du sextuple Ballon d'Or.
Oui, allez, c'est cadeau Alexandre. Pour vous et pour tous les fans de foot en France, ce sont les premiers.
D'abord, bonjour. Je dirais que je suis très heureux.
Oui, c'est vrai hein, qu'il est apparu très souriant, Lionel Messi, impeccable dans son costume cravate accompagné de sa femme et de ses trois enfants portant bien sûr déjà le maillot du PSG. Quelques mots sur Barcelone, mais très vite l'Argentin n'a parlé que d'avenir, de plaisir, de jouer à Paris avec les meilleurs joueurs du monde et de gagner comme il l'a toujours fait à Barcelone. Une nouvelle vie, loin de lui faire peur, qui le motive.
Oh, bien sûr que pour moi c'est une nouvelle expérience, mais je suis prêt. J'ai énormément d'envie. Finalement, c'est du football, le football. Il est pareil partout. Et ça va être une expérience très belle. Nous sommes dans une ville incroyable et on va aussi en profiter. Donc nous sommes heureux et tranquilles.
Bon, il est content de déménager à Paris, Lionel Messi, mais bon, pour le côté sportif, quand est-ce qu'on va pouvoir le voir jouer, Eric ?
Alors, il va falloir être un peu patient, il a très envie de jouer, mais il vient de couper un mois de vacances, il l'a dit, il faut qu'il se prépare, alors peut-être à Reims, fin août, ou alors contre Clermont, au Parc des Princes, début septembre. En tout cas, il va tout faire pour venir le plus vite possible, il veut gagner la Ligue des Champions avec tous ses coéquipiers argentins. Pour cela, il lui faut les meilleurs autour de lui, et d'ailleurs, le président Nasser Al-Khelaifi, qui était tout heureux de présenter Messi, a envoyé une petite pique à Kylian Mbappé, vous savez qu'il a toujours pas prolongé. Le message est clair, maintenant Messi est là.
Kylian, il a dit publiquement qu'il faut un compétitif d'une équipe. Maintenant, on n'a pas plus compétitif de cette équipe. Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre.
Voilà, pas d'excuse pour Mbappé, pas d'excuse pour le PSG. On veut gagner la Ligue des Champions.
Merci beaucoup, Eric Silvestro. Vous resterez avec nous. Vous serez dans les auditeurs ont la parole tout à l'heure à partir de 13h. Lionel Messi, peut-il aider le PSG à remporter la Ligue des Champions ? Est-ce que vous avez envie d'y croire ? Ou alors, bon, si vous trouvez tout simplement qu'on en fait un peu trop autour de l'arrivée de ce nouveau footballeur, venez nous en parler au 32-10. Vous aurez donc la parole à partir de 13h. Dans l'actualité aussi ce matin, une prise de parole inhabituelle pour Emmanuel Macron alors qu'un conseil de défense sanitaire est en cours depuis le fort de Brégançon. Avant même le début de cette réunion, le chef de l'État a martelé « la crise sanitaire n'est pas derrière nous ». Il tente de mettre en garde les Français, Marie-Bénédicte Teller.
Oui, en ouvrant le début du conseil de défense sanitaire aux caméras, Emmanuel Macron dramatise. La situation redevient délicate, elle est même préoccupante en Occitanie, en Provence-Alpes, Côte d'Azur et en Corse. Outre-mer, il évoque même un scénario d'urgence.
S'il fallait faire la démonstration que la vaccination est le moyen le plus efficace de répondre à ce variant Delta, malheureusement, nos Antilles en délivrent, si je puis dire, une démonstration cruelle.
20% de la population seulement y est en effet vaccinée. Ailleurs, l'état d'urgence sanitaire va être décrété en Polynésie française. Alors, comme les prises de rendez-vous se sont ralenties, le président martèle son message.
Nous pouvons encore éviter ce scénario dans l'Hexagone grâce à une arme que notre pays détient et que nombre de pays dans le monde n'ont pas la chance d'avoir à ce stade, je le rappelle. C'est le vaccin. Notre objectif, c'est la vaccination de tous les Français qui peuvent être vaccinés.
Et il appelle chacun à la responsabilité et au civisme, notamment les patrons de restaurants qui ont touché de l'argent public quand ils ont dû fermer, sans oublier de tacler ceux qui tentent, dit-il, de gagner des parts de marché politique sur la pandémie.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. De son côté, le Premier ministre participe au Conseil de défense par visioconférence puisque Jean Castex est actuellement en visite à Carcassonne, au centre hospitalier ce matin, dont le service de réanimation est submergé lui aussi par les patients Covid. Patrick Tégéraud.
Le Premier ministre a rencontré ce matin des soignants déterminés mais fatigués, là de voir et de revoir toujours les mêmes cas, les mêmes drames, à cause d'une vaccination trop faible. En réanimation, c'est le chef du service, le docteur Christophe de la Vega, qui a reçu Jean Castex.
C'est un peu dommage, c'est qu'on a cru qu'avec la vaccination, que l'air était fini de la contamination. Enfin, la grande majorité des gens ont cru ça. Hein. Et on se rend compte que si on n'avait pas ces problèmes de non-vaccinés, très clairement,
on n'en serait pas là.
Mais pas là du tout.
Du tout, ben oui, oui, oui. C'est pour ça aussi voilà, que je viens vous voir pour que vous le disiez, vous l'affirmiez. Maintenant, vous pouvez dire ici, à l'hôpital de Carcassonne, 99% des patients qui sont dans une situation grave n'ont pas été vaccinés. Ça, c'est un discours politique. C'est une réalité médicale.
Et le Premier ministre a insisté aussi sur l'évidence prochaine de rappel de vaccin qu'il ne faut pas appeler troisième dose.
Ben, un peu comme pour la grippe, quoi. Je pense que pour, en tout cas pour des gens qui sont un peu plus vulnérables à cette maladie, compte tenu des variants, ben, il va falloir s'installer sans doute dans des rappels vaccinaux réguliers. Voilà.
Et cet après-midi, Jean Castex visitera un centre de vaccination éphémère au plus près des plages de Leucate.
Voilà, ne dites plus troisième dose de vaccin, mais rappel, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Merci pour ce reportage. Patrick Tégéraud à Carcassonne pour RTL. Les Antilles françaises à présent, une destination très prisée des touristes chaque été. Cette année, entre la flambée de l'épidémie et les reconfinements, la vie dans les îles ne ressemble plus vraiment à des vacances. Les plages sont interdites, les hôtels sont fermés. Hier, les touristes ont reçu l'ordre de rentrer chez eux. Laetitia vit et travaille en Martinique à Fort-de-France. Elle n'est donc pas en vacances, mais elle a quand même sauté dans un avion pour échapper au confinement et Laetitia est arrivée ce matin à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris.
Moi je suis rentrée pour éviter le confinement. J'ai ma famille en France donc c'était la bonne occasion de rentrer quoi. Dès que le préfet a parlé je me suis dit ok, regarde les billets et rentre parce que c'est pas possible quoi. Confinement total, 1 km, plage fermée, enfin non, j'ai pas signé pour ça quoi.
Mais vous travaillez là-bas, comment vous vivez ce qui se passe là-bas? On a très peu de gens qui sont vaccinés, un refus du vaccin, est-ce que ça vous le comprenez?
Moi j'ai du mal à comprendre parce que personnellement je suis vaccinée. Si les gens ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur choix, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est catastrophique en Martinique. Enfin, C'est des morts qui s'entassent, c'est des hôpitaux saturés. Enfin, ils transfèrent même les patients à Paris, là, maintenant, donc c'est compliqué.
Des propos recueillis par Gauthier Delon-Bugard pour RTL. Si vous vivez dans les Antilles, en Guadeloupe ou en Martinique, peut-être que vous êtes en vacances aussi sur place. Vous êtes rentré aussi depuis la flambée de l'épidémie. Venez en tout cas témoigner sur RTL. Racontez-nous votre expérience, votre inquiétude, peut-être aussi un seul numéro, le 3210. Numéro de téléphone pour participer aux auditeurs ont la parole à partir de 13h. À l'issue du Conseil de défense sanitaire, Emmanuel Macron va réunir un Conseil des ministres exceptionnel pour instaurer à nouveau l'état d'urgence en Polynésie française face à la flambée de l'épidémie. Elena est enseignante à Tahiti.
Tout le monde est effaré des chiffres parce que depuis le début de l'épidémie en mars 2020, il y a eu très peu de cas. La Polynésie a été épargnée parce que les frontières ont été fermées très rapidement. Là, les cas se comptent par milliers et puis c'est très rapide. Donc on attend aussi d'autres types de mesures.
Aujourd'hui, le taux de vaccination en Polynésie française est deux fois moins important que dans l'Hexagone. Ce retard, il est dû à quoi ?
En général, les populations ici, on vit beaucoup plus à l'extérieur. Il y a une partie aussi de la population qui a eu le Covid lors de la deuxième vague. Et donc, il y a peut-être eu un temps de latence, mais il y a moins de réticence. C'est quand même assez marginal.
Des propos recueillis par Sinamir pour RTL.
RTL Midi.
Et l'invité de RTL Midi, c'est le lieutenant-colonel des pompiers des Bouches-du-Rhône, Nicolas Faure. Bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous ce midi. Je précise que vous n'êtes pas dans les Bouches-du-Rhône actuellement, mais vous êtes en Grèce où les incendies continuent de faire rage. Vous êtes mobilisé sur place. Quelle est votre situation à vous personnellement actuellement ?
Eh bien, à l'heure où je vous parle, nous venons d'être engagés sur un feu entre Olympie et la localité de Tropea. C'est une zone assez montagneuse qui ressemble à la Corse, où le feu est très virulent.
Monsieur Faure, oui.
Le feu, excusez-moi,
je vous en prie.
Je suis en même temps en train d'engager des moyens.
Bien sûr, je comprends.
Le feu prend de l'importance. C'est un feu qui, dans la nuit, a parcouru environ 20 000 hectares, qui s'était un peu calmé, mais là, le vent se relève, les températures sont très élevées, entre 36 et 40 degrés, il y a un vent de 40 km/h. Et le feu est en train de se réactiver assez violemment. Donc tous les pompiers de France qui se sont regroupés hier en Grèce, donc environ 140 pompiers de 10 départements, sont en train d'être engagés en face de moi, à l'instant, à l'instant même, en même temps que je vous parle.
Vous avez une expertise qui est assez particulière sur ces feux de végétation en étant pompier des Bouches-du-Rhône. Vous me disiez que ça ressemble un petit peu à la Corse. Vous avez l'impression que c'est une situation comparable à ce que vous pouvez voir dans le sud de la France ?
On a à peu près le même relief, la même végétation, on connaît aussi le vent, par contre les épisodes de haute température sont plus rares et on se rend compte que les feux prennent des ampleurs démesurées très rapidement, surtout sur tout le territoire.
Oui c'est ça, en termes d'ampleur c'est plus gros que ce qu'on peut avoir d'habitude en France ?
C'est plus gros, ça part très vite et évidemment on arrive à une rupture quand il y a un trop grand nombre de feux sur un territoire donné.
On a vu des feux en Sardaigne ces derniers temps, en Turquie également, il y en a aussi en Algérie. Est-ce qu'il faut s'inquiéter face à la multiplication des feux autour de la Méditerranée ?
Oui, on est clairement dans une situation qui touche tout le bassin méditerranéen depuis l'Espagne, on peut même aller jusqu'au Portugal, même si c'est atlantique, jusqu'au sud et aller à la Turquie de l'autre côté. Les effets du changement climatique sont là et des situations de canicule très violentes entraînent ce type de situation.
Est-ce que vous pouvez adapter vos moyens de lutte contre les incendies face justement à ce changement climatique ?
Nos moyens sont prêts. Après ce que l'on adapte depuis maintenant 2018 en ce qui concerne les Bouches-du-Rhône, mais plus largement la France et l'Europe, ce sont des mécanismes de réaction rapide. Là, c'est en 24 heures que nous sommes partis en Grèce. Ce sont des procédures communes de manière à être beaucoup plus efficace sur le terrain, à mieux se comprendre et à connaître les organisations de chacun. C'est cette préparation-là qui est très importante et qui porte ses fruits aujourd'hui. On voit que l'Europe entière se mobilise, et la France au premier chef, pour soutenir la Grèce.
Là, concrètement, quand vous croisez des collègues pompiers grecs sur le terrain, vous leur parlez en anglais, vous avez le même matériel qu'eux ?
On n'a pas le même matériel. On se parle en principe en anglais, mais en même temps, beaucoup de Grecs sont francophiles. C'est un fait historique depuis l'indépendance de la Grèce. Donc on arrive à trouver aussi... des interlocuteurs qui nous permettent de nous comprendre. Après, le matériel, on l'adapte. C'est surtout une compréhension des organisations, des méthodes. Et petit à petit, en se connaissant mieux, on arrive à être de plus en plus efficace au fil des jours.
Vous nous dites que vous réussissez à adapter le matériel. Concrètement, ça se présente comment ?
Le matériel, c'est essentiellement un problème de raccord. C'est tout simplement les normes qui sont différentes d'un pays à l'autre.
Le raccord, c'est pour le tuyau, le tuyau
oui,
d'eau, c'est ça
simple,
ouais,
qui va permettre de raccorder un tuyau à un camion ou à un poteau d'incendie, par exemple, pour l'alimenter. On n'a pas les mêmes dimensions, c'est européen là aussi, on n'a pas de normes européennes, mais on trouve des solutions en adaptant des raccords d'un modèle à l'autre, de manière à pouvoir là aussi se connecter facilement.
Comment ça se passe la collaboration avec aussi les autres pays européens qui ont envoyé des pompiers sur place? Est-ce qu'il y a une supervision?
Alors, on arrive à travailler. De toute façon, on travaille en collaboration immédiate avec les autorités grecques. On a toujours des officiers de liaison grecs avec nous, donc qui font l'interface. Et après, on arrive à s'articuler avec des collègues européens, voire extra-européens, je dirais, puisque ces derniers jours, on a pu collaborer avec des Israéliens. Ça se passe bien sur le terrain, il n'y a pas de souci, parce qu'on a ces officiers de liaison. Et puis, on a cette motivation commune. On est là pour la même chose.
Et puis auprès de la population, vous disiez qu'il y avait pas mal de pompiers grecs qui étaient francophiles. Est-ce que ça se passe aussi de la même façon avec la population? Est-ce qu'ils sont contents de voir des Français sur place? Comment est-ce qu'ils réagissent?
La population est formidable, elle nous réserve un accueil extraordinaire. Et c'est quelque chose qui nous touche énormément. Qui nous touche énormément parce que il y a réellement des gens en situation de détresse, mais qui nous accueillent avec énormément de reconnaissance.
Là, vous avez prévu quelque chose pour les semaines à venir. Vous allez rester combien de temps sur place, vous savez ou pas?
Écoutez, on n'a pas de certitude. Ça va dépendre de la situation opérationnelle qui évolue au jour le jour. Et la météo n'est pas forcément favorable pour les mois à venir.
Bien, merci en tout cas beaucoup pour toutes ces précisions en direct. Le lieutenant-colonel des pompiers des Bouches-du-Rhône, Nicolas Faure, merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse retourner à votre service sur le terrain. Donc, je rappelle que vous étiez en Grèce. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. La Méditerranée en proie aux flammes, hein, cet été, la Turquie, donc la Grèce, la Sardaigne et maintenant le nord de l'Algérie, un incendie attisé par la canicule. Des images impressionnantes circulent sur les réseaux sociaux. Le feu a déjà fait au moins 42 morts, Mathias Reynal.
Un ciel bleu assombri par un panache de fumée menaçant qui s'élève au-dessus de la ville. À l'Arbanat Iraten, commune de la région de Tizi Ouzou, les habitants ont dû être évacués. Karim Ben Amar est journaliste, il était sur place pour un reportage.
La situation est complètement catastrophique. Plusieurs villages sont totalement décimés par les feux. Des feux violents.
Difficile d'en ressortir indemne quand on a vu les corps carbonisés, confie-t-il. Jamel Alilat habite à Béjaïa, l'une des zones gravement touchées.
Il faut savoir qu'on parle d'une région montagneuse, densément peuplée. Vraiment, il y a beaucoup de villages. Et certains villages se trouvent au milieu d'une épaisse végétation, de forêts.
Les habitants se sont retrouvés totalement démunis.
En essayant de combattre le feu à main nue pour sauver leur cheptel, leur maison, leur village, beaucoup de personnes sont mortes asphyxiées.
À Annaba, des cris de joie hier, la délivrance, quand la pluie a enfin commencé à tomber.
Le correspondant de RTL sur place, Mathias Reynal. Les feux de végétation, la situation est parfois aggravée par la chaleur et par la sécheresse, mais c'est souvent un acte de négligence qui en est à l'origine. Le plus classique, c'est un mégot de cigarette jeté par la fenêtre sur l'autoroute. Alors au-delà de provoquer des incendies, c'est aussi une pollution très importante pour la planète. 23 milliards de mégots sont jetés dans la nature en France chaque année. Pour participer à leur collecte et organiser des campagnes de prévention, le ministère de l'Environnement annonce que les collectivités vont désormais recevoir 80 millions d'euros par an. Une aide financée par les fabricants de tabac. Marie Guerrier, c'est le principe du pollueur-payeur.
Oui, et pour la filière mégot, un éco-organisme Alcom vient d'être agréé par arrêté ministériel. Cet organisme va collecter la contribution financière des fabricants de cigarettes et de filtres. Ensuite, il reversera l'argent aux collectivités locales pour payer les opérations de ramassage et de nettoyage. Afin de pouvoir bénéficier de ce soutien financier, les collectivités sont invitées à se rapprocher d'Alcom, qui a aussi pour mission de fournir des cendriers de poche et de rue. L'organisme, avec l'argent des cigarettiers, va également financer des campagnes de sensibilisation sur l'impact écologique des mégots jetés dans la nature. Et puis, il doit contribuer au développement de solutions de recyclage et de moyens de collecte innovants. L'objectif de tout ça, c'est de réduire la quantité de mégots abandonnés d'au moins 40% en 6 ans. La contribution financière versée aux collectivités sera calculée sur un barème fixé en fonction de la situation géographique. Milieu rural, zone urbaine dense, zone touristique. Ça peut donc aller de 50 centimes par habitant et par an à la campagne, jusqu'à 1,58€ dans une station balnéaire où l'on trouve évidemment, surtout ces temps-ci, des mégots sur les plages. Et puis 2€ par habitant et par an pour collecter, ramasser, faire de la sensibilisation dans les villes plus importantes.
Les explications signées Marie Guerrier pour RTL. Une petite révolution pour les motos et pour les scooters. À partir de 2023, les deux roues motorisées devront passer un contrôle technique. Et oui, comme pour les voitures, une mesure obligatoire au niveau européen, mais que la France tarde à mettre en place. Dans quelques minutes, une vingtaine de minutes, les auditeurs auront la parole sur RTL. Martelez le 3210 sur votre téléphone, sautez sur votre téléphone, venez nous parler de l'actualité. Vous avez eu le programme dans le journal, on parlera ensemble évidemment de Lionel Messi, on pourra aussi parler de la situation sanitaire dans les Antilles, de vos vacances qui ont sans doute été déçues si vous êtes parti sur place. Pour l'instant, on marque une courte pause. On va ensuite suivre les confessions de Christine Boutin. C'est la suite de notre série consacrée aux anciens candidats à la présidentielle.
RTL. RTL. Présidentielle. Le jour où j'ai dit oui.
Eh oui, c'est mercredi, cet été, on parle de politique sur RTL. À quelques mois de la présidentielle, tous les candidats ne se sont pas encore fait connaître. On a décidé d'aller à la rencontre d'anciens candidats pour comprendre comment ils avaient franchi le pas. Aujourd'hui, Christine Boutin, conseillère départementale et députée des Yvelines, le jour où elle a décidé de se présenter à la présidentielle, pour la première fois, c'était en 2002. Jacques Serret l'a rencontrée dans sa maison du Croisic, en Loire-Atlantique.
Christine Boutin le jure, se présenter un jour à l'ultime élection, elle n'y avait jamais pensé. L'Élysée, le château ne figuraient pas dans ses plans, pas un souhait, pas même un rêve. Non, avant 2002, année qui la verra concourir finalement au suffrage des Français, Christine Boutin patiente sur les bancs de l'Assemblée nationale. Elle y est bien sur son strapontin rangé UDF, le groupe de centre-droit. La députée des Yvelines honore alors son 4e mandat. Quand à la fin des années 90, le gouvernement Jospin souhaite mettre en place le PACS, le pacte civil de solidarité.
C'est à ce moment-là, du reste, que je suis sorti de l'anonymat. J'étais élu depuis 1986, mais c'est moi qui ai mené le combat contre le PACS.
Car pour la fervente catholique Christine Boutin, hors de question de laisser passer ce texte dans lequel elle dénonce à l'époque, au travers des lignes, la création d'un mariage homosexuel.
Je ne suis pas favorable au mariage des homosexuels parce que je ne crois pas qu'il soit bon d'ériger en norme l'homosexualité.
La porte-drapeau de la droite conservatrice prend la lumière, attire les micros au Palais Bourbon et provoque un jour de décembre 98 la foudre du Premier ministre Lionel Jospin.
C'est le choix de confier sa vision de ce problème de société à une députée marginale sur ces questions et outrancière dans ses propos qui a créé des problèmes.
Christine Boutin sort en pleurs de l'hémicycle.
La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'à un moment où le Premier ministre veut soi-disant réhabiliter la place des femmes dans la vie politique, je laisse au peuple de France le soin de juger de ses paroles.
Des larmes qui confortent sa notoriété grandissante. La députée en fait d'ailleurs un livre, « Les larmes de la République ». Quelques mois plus tard, Christine Boutin a rendez-vous avec un petit groupe de journalistes pour échanger de manière informelle à deux pas de l'Assemblée. Et une question va la laisser bouche bée. À 77 ans, dans sa maison du Croisic, elle s'en souvient comme si c'était hier.
On veut prendre un café ensemble, je sais pas, et puis tout d'un coup, il m'a dit « Mais est-ce que vous pensez à l'élection présidentielle ?» Je les ai regardés interloqués, j'ai dit « Bon, enfin, j'ai trouvé ça complètement farfelu. »
La graine de la présidentielle est plantée, de là, l'idée de se présenter va germer.
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Mais c'est des observateurs politiques, comme les journalistes, ça leur vient à l'esprit, c'est peut-être que je représente quand même un petit peu quelque chose, il faut peut-être les porter. »
Très rapidement, elle fait alors part à son mari de sa réflexion.
Dans mon discernement, j'avais besoin de voir sa réaction. Est-ce qu'il m'avait dit « mais t'es complètement folle, ça va pas du tout ». Peut-être que ça n'aurait pas cheminé, ou en tous les cas, j'aurais mis plus longtemps à prendre la décision. Et bien sûr, il a été surpris, mais il m'a pas dissuadé du tout.
Elle prévient ses trois enfants âgés d'une trentaine d'années, et puis il y a la prière comme une évidence pour celle qui se voit comme la candidate des catholiques.
Dieu m'a pas dit « Christine, faut que tu y ailles hein. ». Non, non, non.
Vas-y ou n'y va pas.
Non, non, non. Dieu ne m'a pas dit ça. Mais la réponse de Dieu, elle se traduit de façon très diverse. Pour moi, un élément du discernement, c'était la paix intérieure que j'avais dans le cœur.
En juin 2001, Christine Boutin franchit le pas. Elle se lance officiellement dans l'arène en donnant une conférence de presse.
« Mes chers compatriotes, la famille est le lieu privilégié de l'apprentissage, de ce qui permettra à l'enfant d'aujourd'hui d'être l'adulte de demain. »
La campagne est lancée.
Pendant un an, je n'ai pas arrêté.
Christine Boutin parcourt la France.
Vous travaillez ou... Et vous avez combien d'enfants? Sept enfants, c'est bien.
Près de 20 ans plus tard, l'ex-candidate à l'Élysée porte un regard presque ému sur cette expérience.
La campagne, mais c'est magnifique une campagne. Vous voyez les gens. Et là, ils ne vous cirent pas les chaussures. Les gens vous parlent directement. Et là, j'ai pu découvrir la France. J'ai pu comprendre un peu mieux la France.
Le 21 avril 2002, Christine Boutin ne récoltera qu'1,3% des voix, un score très faible qui ne l'empêchera pas cependant de négocier son soutien à Jacques Chirac pour le second tour.
Je lui ai dit, écoutez, je vous apporte mon soutien si vous vous engagez à trois choses. Pas d'euthanasie, pas de loi bioéthique, pas d'allongement pour le délai sur l'avortement. Il m'a dit d'accord et il a tenu. Voilà, les 1,3 ont un sens.
Et ça, c'était déjà une victoire à ses yeux.
Le jour où j'ai dit oui, une chronique à retrouver en podcast sur notre site rtl.fr et sur l'appli RTL. Dans quelques minutes, vous aurez la parole sur RTL. Venez réagir à l'actualité. On pourra parler, si vous le voulez, de Lionel Messi. Est-ce que vous allez acheter le nouveau maillot du PSG? Il coûte très cher, je crois. Plus d'une centaine d'euros. Et si on veut le faire floquer, ça coûte encore beaucoup plus cher. Est-ce que l'arrivée de l'attaquant argentin va mettre du piquant dans la Ligue 1 cette année? Vous avez hâte de regarder les prochains matchs? Venez nous le dire au 32-10. Puis si au contraire, si vous trouvez qu'on en fait un peu trop, n'hésitez pas à nous le dire aussi, hein. On prend tous vos conseils. Et puis on attend également vos appels sur la situation inquiétante de l'épidémie en Martinique et en Guadeloupe, là où de nombreux touristes sont présents chaque année. Venez nous raconter vos vacances qui ont sans doute été annulées sur place. On attend tous vos appels. Un seul numéro, c'est le 3210. On jette un coup d'œil sur la météo, Louis Baudin, à présent. Non seulement on a du soleil, mais en plus, ça se réchauffe.
Oui, ça, on l'a attendu, hein, dans la moitié nord notamment. C'est vrai que dans le sud, là, l'été s'est imposé un peu plus facilement ces dernières semaines, mais dans le nord, ça a été très compliqué. Donc on va apprécier cette journée où le soleil va s'imposer effectivement au nord de la Loire. Alors c'est pas encore du grand ciel bleu, mais quand même une très belle impression. Plus de précipitations, plus besoin du parapluie, quel que soit le moment. Et tout cela, donc vous l'avez dit, avec des températures en hausse. Hein, cet après-midi, on dépassera les 21 à 24 degrés près de la Manche, 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions de la moitié nord, hein, 27 à Paris, 29 à Strasbourg par exemple cet après-midi. Et puis dans le sud, on sera entre 30 et 36 degrés, 37 même du côté de Nîmes.
Et demain, ça va continuer?
Ah bah ça continue. Ah bah oui, mais non, ça va pas s'arrêter d'un coup quand même. Là, maintenant c'est parti. Demain, temps sec et ensoleillé.
L'été
partout.
Est là, ça y est.
Probablement la journée la plus chaude même de la période, avec des températures qui atteindront 22 à 27 degrés cette fois-ci près de la Manche, et 30 à 35, 36 degrés dans toutes les autres régions. On atteindra les 30 degrés au moins dans la moitié nord, et on devrait dépasser encore les 35 degrés parfois demain en région toulousaine ou encore autour de la vallée du Rhône. Tout ça avec un tout petit risque d'orage en montagne, hein, c'est normal, soleil, chaleur et risque orageux, mais là c'est tout à fait de saison.
Merci beaucoup Louis Baudin. Il est 13.